Et on va voir ça avec le demi-repentir. Prends Rome au niveau de la Rome païenne, avant de repentir. Hein? C'est bien, ça va? Et tu as ta réponse?
Oui.
Bon, on va voir plus en détail tout à l'heure. Et voilà, je crois que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est cela. Et la Torah ici va nous indiquer de façon très aiguë, très accusée, le caractère dramatique de l'option de Ésaü. Bien sûr qu'à chaque moment de son existence, il peut encore se repentir, changer. Okay? Mais au fur et à mesure que le temps passe, ça lui est difficile. Bon, voilà le problème. Et alors, je vais vous expliquer, je reviens un peu sur cette scène de la mort d'Abraham comme filigrane, en filigrane de cette scène-là. Le Midrash l'explique de la manière suivante. Tant qu'Abraham était vivant, il y avait une chance qu'Ésaü soit tzaddik. Le jour où Abraham est mort, Ésaü, l'expression est Yatsa letarbut ra'a. Reprenez cette expression parce qu'elle est très courante. Yatsa letarbut ra'a. Tarbut ra'a, tarbut ra'a. Oui, une conduite. Ra'a, mauvaise. Yatsa, il est sorti à une conduite mauvaise. Il est devenu mauvais. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'Abraham est vivant, Ésaü ne peut pas devenir vraiment Rachar. Et la Torah nous indique c'est que le jour où Abraham disparaît, qu'Ésaü devient Rachar. Ça veut dire, tant qu'il y a dans le paysage de l'histoire humaine des êtres qui sont témoins des valeurs spirituelles, on ne peut pas le nier. Lorsqu'ils disparaissent, alors ça se dévoile. C'est clair? Je veux dire, en compagnie d'Abraham, on ne peut pas nier qu'il y a un créateur. Et voilà comment le Midrash l'explique. C'est que le véritable aîné, c'est celui qui sait qu'il y a quelqu'un avant lui. Donc le véritable aîné, c'est le deuxième. Vous y êtes? Et on nous le montre par le mot de Bechor. Les trois lettres sont trois deuxièmes lettres. Le Bet, c'est la deuxième lettre des unités. Le Kaf, la deuxième lettre des dizaines. Et le Resh, la deuxième lettre des centaines. C'est-à-dire, c'est le véritable Bechor, c'est le deuxième. C'est clair? Tant qu'Abraham est présent, il est le témoin qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'homme. Il y a un créateur. C'est-à-dire, tant qu'Abraham est là, ici nous avons un enseignement très ramassé mais très important. Tant qu'Abraham est là, en présence d'Abraham, Esav ne peut pas nier qu'il y a un créateur. Mais Abraham ayant disparu, voilà ce qu'il dit. Inani olech lamut, je vais à la mort, que me fera la Bechora. C'est clair? Vous avez bien compris cela? Nous avons un enseignement dans la Gemara, qui se trouve deux fois d'ailleurs, que je vais vous expliquer en paraphrase, à propos d'un verset qui se trouve dans le Deutéronome, et à propos de ce qu'a représenté Moïse à ce niveau-là, pour le peuple d'Israël. Le verset dit ceci, « Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha, Shoel Meimach, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, réclame de toi, Ki'im Leira Oto. Si ce n'est Ki'im que Leira Oto, avoir l'Aira Telokim qu'on avait rencontré chez Abraham. Vous vous rappelez ce que je disais à ce moment-là? La valeur peut tout contre moi, peut tout sur moi, elle me transcende en tout, sauf sur une chose, que je la respecte. Okay. Par conséquent, le verset implique ceci, Dieu n'a rien à réclamer de vous, puisque tout ce que vous avez, c'est lui qui vous le donne, sauf une chose que vous seul pouvez donner, c'est la Yirat Shamayim. Ça va jusque-là? C'est bien clair? En d'autres termes, la valeur s'impose à vous, il y a une chose qui ne s'impose pas à vous, c'est le respect de la valeur. Donc ce que la valeur réclame de vous, c'est le respect de la valeur. Ça va jusque-là? Alors, la Gemara fait parler Moïse avec ce verset en disant, il s'adresse à Israël dans le livre de Varim, le livre de Deutéronome, que uniquement cela. Alors, la Gemara objecte, mais est-ce que c'est une petite chose que le verset dise uniquement cela? Et la Gemara répond, et puis elle nourrit son objection en disant, mais est-ce que tu peux dire que la Yirat Shamayim, c'est une petite chose que tu dis qui uniquement cela? Vous suivez ou je vous dis plus du terme? Le respect des valeurs. C'est clair? C'est pas clair?
Je suis pas
conscient. J'arrive pas à suivre. Donc je reviens un peu en arrière, nous avons eu cette analyse une autre fois. Lorsque je ressens un sentiment d'obligation, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que je suis soumis à une obligation qui vient d'une valeur qui me transcende. Okay. Prenons par exemple la valeur de vérité. Et je vais la prendre dans un exemple très privilégié, un théorème de mathématiques. Je crois qu'on en a parlé une fois. À partir du moment où je découvre l'évidence d'un théorème de mathématiques, eh bien je ne peux plus faire que cela soit pas vrai. Cette évidence s'impose à moi comme une obligation. C'est bien clair? Voilà un théorème rudimentaire, que 2 et 2, ça fait 4. Alors, cette vérité d'évidence s'impose à moi. Vous pouvez prendre un théorème le plus élaboré, c'est la même règle. Cependant,
ce n'est pas un théorème.
Oui, comment tu appelles ça?
Je ne suis pas un théorème, c'est que deux droites parallèles se
rencontrent. Oui, tu veux dire un théorème, c'est qu'en géométrie.
Non, pas seulement, mais je veux dire, c'est 2 et 2 font 4, c'est une opération qu'on fait.
Bon, c'est vrai, non. Comme moi j'ai appris ces choses-là, on appelait ça un théorème. En tout cas, c'est ni un postulat, ni un axiome. Ça veut dire que ce n'est pas du tout un postulat ou un axiome. C'est le résultat d'une loi mathématique. Bon, peu importe, vous prenez un théorème élaboré, je ne sais pas ce que vous voudrez. Et même quand un théorème a plusieurs racines, en fait, à partir du moment où cette évidence de vérité s'est dévoilée à moi, elle s'impose à moi, elle m'oblige. On appelle ça une obligation. Alors, je ne peux pas faire que ce ne soit pas vrai. Mais je peux mentir. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que je reste libre de l'accepter ou pas, mais je ne peux pas faire que ça ne soit pas vrai. Par conséquent, les valeurs, quelles qu'elles soient, et en particulier les valeurs morales, me contraignent, mais elles ne contraignent pas ma liberté. Ma liberté reste entière. Il y a plusieurs niveaux d'élaboration de la relation à la valeur, et précisément, la qualité de la bonne volonté consiste à faire coïncider mon propre choix de relation à la valeur avec ce que la valeur dit. À un certain niveau, on va changer de niveau radicalement, le seul fait de l'évidence me contraint et me prive de liberté. Mais au premier niveau, non, je reste libre devant la valeur. C'est bien clair? Alors on appellera Irat Shamayim l'attitude de respect des valeurs. C'est bien clair? Je l'ai dit sous une autre forme. Une valeur est quelque chose de très vulnérable, de très exposé, parce qu'elle est découverte devant ma liberté. Et alors, c'est le sentiment de pudeur qui explique, je crois, le mieux, au niveau de l'expérience concrète, la relation à la valeur. La relation à la valeur est d'abord l'éclosion d'un sentiment de pudeur. C'est quelque chose qui a du prix, mais qui est exposé, que l'on peut violer impunément, apparemment. Alors, le minimum de l'expérience de piété, c'est ce sentiment de pudeur que la valeur doit être protégée. C'est clair? Bon. On a peur d'y porter atteinte. Ça s'appelle Irak Shamayim. Je disais cela tout à l'heure, il y a cette expérience qu'il y a certains hommes à côté de qui on ne peut pas nier l'existence des valeurs. Et lorsqu'ils disparaissent, alors on a une expérience, d'une part de solitude, mais surtout de évanouissement des valeurs. On n'a plus de référence. Ça, c'était le cas d'Abraham. Ensuite, nous verrons le risque de piège qui se cache là-dedans. Okay. Alors, je reprends le cas de Moïse. Le verset dit, et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu réclame de vous si ce n'est la Yirat Shamayim? Alors, la Gemara demande, comment tu dis si ce n'est? C'est une petite chose, c'est une très grande chose, et elle cite énormément de versets, énormément d'enseignements, que la plus grande valeur qui puisse exister, c'est Yirat Shamayim, puisque toutes les autres, Dieu en dispose. La seule qu'il attend de l'homme, c'est la Yirat Shamayim. Donc, c'est la plus grande des valeurs. C'est clair jusque-là? Bon. Alors la Gemara répond, non, pour Moïse, c'était une petite chose. Et elle donne cet exemple, un principe qui est important, quelqu'un qui possède une grande chose, ça lui apparaît comme une petite. Mais si quelqu'un qui ne possède pas une petite chose, ça lui apparaît comme une grande. Vous avez compris ce principe? C'est un principe de la valeur, des théories de la valeur économique élémentaire. C'est clair jusque-là? Alors, l'expression arabienne est la suivante. Oui, les gamins mochés, l'ulta, l'ulta, c'est en araméen et je vais le traduire en hébreu. Voilà la réponse à la Gemara. Et, Vous rappelez El en araméen, la nuit d'étude? Qu'est-ce que ça veut dire, El? Oui, oui. Et on doit dire In, d'ailleurs. In, oui. Mais Gabé, mon chéri, par rapport à Moïse, pour Moïse, c'est une petite chose. Et elle enchaîne en disant à quoi la chose ressemble. À celui qui possède une grande valeur, mais il la possède, alors à ses yeux, ça a peu de prix, puisqu'il la possède. Mais pour quelqu'un qui ne posséderait pas quelque chose, ça a un plus grand prix parce qu'il la possède pas. C'est clair ? Alors elle répond, pour Moïse, c'est une petite chose parce qu'il la possède. Et là, il y a une indication de la modestie de Moïse. En ce sens que, on peut objecter, c'est très bien, Moïse a la Yirat Shamayim, donc pour lui, c'est une petite chose. Mais il sait très bien que pour les autres, c'est une grande chose. Alors pourquoi il dit si ce n'est ? J'ai compris l'objection. Okay. Ça veut dire, la modestie de Moïse va à un point tel qu'il ne se rend pas compte que cette valeur qu'il possède est une grande chose. Et que il y a une authenticité de la valeur de modestie qui fait que il est en droit de projeter sur les autres hommes, son propre comportement, puisque pour moi c'est une petite chose, pour les autres aussi c'est une petite chose. C'est-à-dire, de se dire, je possède une grande valeur, et pour moi c'est rien puisque je la possède déjà, alors que les autres n'en sont pas capables, et c'est une grande chose pour eux, ça aurait été de l'orgueil. Vous avez compris ce niveau d'analyse de modestie. Bon, maintenant il y a une deuxième lecture de cette Gemara, sans changer de mot, comme d'habitude. Oui, les gavés, manchés, ça veut dire à côté de Moïse. Lorsqu'on est à côté de Moïse, c'est une petite chose. Et ça, Moïse le savait. Vous avez compris ce que je dis ? C'est clair ? Alors, nous revenons au cadavre. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience dans votre vie de cela. Je le dis de façon très simple, et j'analyserai. Il y a des hommes à côté de qui on ne peut pas nier la vérité. C'est bien clair ? Tout le monde a bien compris cela ? Non. Et voilà le cas donc de Ésaü et Abraham. Tant qu'Abraham est là, et Abraham c'est son grand-père, okay, alors Ésaü ne peut pas nier le témoignage d'Abraham. Mais Abraham a disparu. Alors il se retrouve dans un monde sans Abraham. Alors un monde sans Abraham, il est privé de ce témoignage. Ça veut dire que ce que représentait Abraham puis Israël n'est pas passé par lui, c'est passé par Jacob. Le piège qui se cache dans ce thème que je suis en train de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Ça veut dire que c'est à manier avec précaution. C'est-à-dire, le prix que représentent ces personnes humaines à côté de qui on sait que le monde a un sens est tel qu'on risque de les idolâtrer. C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent dans cette relation. C'est bien clair ? Vous avez compris ? C'est ce qu'on appelle très exactement le culte de la personnalité. Et vous avez déjà appris, vous apprendrez souvent à quel point, dans le rituel juif, tous les efforts sont faits pour évacuer cela. Au point qu'on n'avait aucun culte qui fasse allusion à Moïse. Et pourtant, Israël ne serait pas Israël sans Moïse. Aucun culte consacré aux patriarches. Et pourtant, sans les patriarches, Israël ne serait pas Israël. C'est clair. Là. Alors que si nous avions affaire à une tradition d'égoïne, eh bien, tous les grands hommes de la Bible qui ont fondé l'identité d'Israël auraient déjà des chapelles, des niches. C'est clair. Hein. Qu'est-ce que je veux dire ?
Mais puisque c'est passé par Jacob.
Jacob n'est pas encore capable de faire qu'Ésaü devienne Israël. On est à ce stade-là. Okay. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Okay. Tu veux dire, mais est-ce que Jacob n'aurait pas pu convertir Ésaü ou le mener au repentir ?
Jouer le même rôle qu'Abraham.
Jouer le même rôle qu'Abel vis-à-vis de Caïn. Oui, jouer le même rôle qu'Abraham. Eh bien, Jacob ne peut pas. Pas encore. Et alors, je vais ouvrir une parenthèse pour vous indiquer les versets qui montrent que Jacob a refusé la bénédiction matérielle. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Oui, à propos autour de certains hommes, de faire toute une aura. Dans le judaïsme, il y a certains rabbins qui sont considérés comme miraculeux, voire comme.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais je vous ai signalé ça comme un piège, comme un risque. Entre respecter une personnalité qui porte ce témoignage, et c'est tellement énorme pour le sens de la vie que le respect est lui-même énorme, et ce qu'on pourrait appeler le culte de la personnalité, une véritable divinisation et idolâtrie, ça fait deux. Alors il peut arriver que vous trouveriez des caricatures de cela et que ça vous fasse penser à un culte de la personnalité, mais en réalité c'est pas ça. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, je suis un peu mal à l'aise pour vous parler de ça, puisque je ne fais pas du tout partie de ce genre de communauté. Okay. Donc je ne peux qu'abonder dans votre sens. Vous avez compris ce que je veux dire. Okay. Mais il n'y a pas de doute que, authentiquement, originellement, la relation avec cette tzadikim, c'est une relation de respect, ce n'est pas du tout une relation de divinisation. À un certain niveau, au-dessus, je ne sais pas moi, de fruste, de superstition fruste, ça peut ressembler à cela. Mais fais bien attention à cela, chaque fois que ça a existé, ça a quitté le judaïsme. C'est plus juif. C'est clair. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais c'est précisément ce problème. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez, mais peu importe. Je ne sais pas d'ailleurs si on en a parlé. À ce qu'on appelle la secte, mais ce n'est pas une secte, parce qu'on est dans le judaïsme, il n'y a pas des sectes, mais enfin, justement, c'est le genre, le danger que ça ressemblerait à des sectes, des Lubavitch. Parmi les chassidim, ce sont parmi les plus, vous savez, il y a des centaines de communautés chassides différentes, de messages chassides différents. Les Lubavitch sont les chassidim de la joie et de la midat hassed absolument. Vous voyez ce que ça signifie bon. Et les Lubavitch, c'est un mouvement chassidique d'origine ashkenaz 100%, plus que très 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 précisément russe, okay, c'est clair. Et puis c'est un mouvement qui a réussi à ramener à la Torah énormément de gens d'autres communautés, en particulier en France, et en particulier des Sfaradim. Ce qui fait que quand vous rencontrez aujourd'hui des communautés Lubavitch, en France en particulier, l'immense majorité des Lubavitch sont des Sfaradim d'origine, okay. C'est clair jusque-là. Alors, ce que je vais vous dire, et je peux me permettre de vous dire parce que je connais bien les juifs sfaradim, c'est que pour les sfaradim devenus Lubavitch, il y a ce risque du culte de la personnalité. Mais pour les ashkenazim d'origine, ils sont vaccinés contre. C'est clair ce que je dis? Vous avez compris le problème? Je me souviens une fois, il y a une dizaine d'années, j'ai dû diriger une soirée dans la banlieue parisienne pour le Technion de Haïfa qui avait besoin d'argent. Et puis, ça se passait dans une villa d'un juif nord-africain de la banlieue parisienne. Bon. Puis on m'a reçu très gentiment d'ailleurs, et puis on a commencé à parler de mishpachologie, si je connaissais la cousine du cousin. Et puis je rentre dans la salle, et puis je vois une photo d'un rabbin, qui est vivant encore, avec une veilleuse devant. Alors mon sang a fait qu'un tour, tout ça par terre. Comment, monsieur le rabbin, monsieur le... Je lui dis, vous ne vous rendez pas compte de l'idolâtrie que ça représente. Mettre une veilleuse devant la photo d'un rabbin vivant, ça n'existe pas chez les juifs. Vous avez compris? Alors, les ashkenazim ne font pas ça. C'est les fraîchement convertis sfaradim qui ça bascule dans une tendance christianisante. Vous avez compris le problème?
Et pourtant, les ashkenazim ont plus tendance à se christianiser puisqu'ils ont vécu dans le
monde. Pas les Dafka. Les ashkenazim qui se christianisent, quittent le judaïsme, c'est un cas. Mais je parle des ashkenazim qui ont résisté à cette assimilation au christianisme, et l'image qui me vient, c'est l'image de l'immunisation. On se crée des anticorps. Okay. Alors, un ashkenaz, vous ne le trouverez jamais dans ce danger-là. Un néophyte, peut-être. C'est clair ce que je dis. Vous avez bien compris. Alors, méfiez-vous de cela. Actuellement, il y a d'ailleurs une exploitation de ces choses-là, en particulier à Netivo, vous entendrez parler du Baba Salé.
C'est du Baba
Salé. Oui. Bon, le Baba Salé lui-même, le vrai ancêtre, je l'ai connu personnellement. C'était un authentique rabbin miraculeux. Il est fort probable que son successeur soit un charlatan. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Un rabbin miraculeux. Ça, je peux vous donner des témoignages personnels. D'ailleurs, nos deux familles étaient très amies, enfin, au niveau des grands-pères. Et c'était vraiment un saint homme, sans problème. Mais il est fort possible qu'il est mort l'année dernière, que sur son nom, on va bâtir un charlatanisme énorme. Méfiez-vous de cela. Je pense que c'est clair, ça a dû commencer déjà. Bon, le tombeau, ça va, qu'il y ait un mausolée, un tombeau, c'est très bien. Mais qu'on s'en sert pour des opérations commerciales de charité pour aider les comptes en banque, il faut bien aider les comptes en banque. Mais... bon, en tout cas, j'en sais rien en détail, mais... il y a suffisamment de signes qui montrent qu'il y a un risque de cela.
Il y a un risque de culte des morts aussi, et puis si la
Oui, oui, ce sont des risques, mais je tenais à vous le signaler. Les deux choses sont vraies. Il y a effectivement, et je vous souhaite de ces rencontres-là, quand on rencontre, d'ailleurs c'est le problème de l'amour fondamentalement, lorsqu'on rencontre quelqu'un à côté de qui on sait qu'on n'est plus seul. Ça c'est l'amour conjugal. Et puis, et lorsqu'on rencontre quelqu'un à côté de qui, à la limite, on sait que Dieu existe. On n'a pas besoin de faire de la philosophie. Si lui existe, alors kolcheke. Vous avez compris le... Ça, c'est une valeur très positive, ce que représentait Abraham dans cette scène, Moïse pour Israël. Ceci dit, il y a ce risque de prendre l'intermédiaire pour un objet d'idole. C'est clair. Or, parfois, il y a une telle fascination de la valeur de sainteté qu'on ne se rend pas compte qu'on risque de tomber dans ce piège. C'est pourquoi il faut scrupuleusement observer le Shulchan Aruch à ce sujet, qu'il n'y a aucune prière qui ne soit adressée que à Dieu lui-même. C'est bien clair ? Parce que ce n'est pas plus compliqué. Cette dernière phrase. Ne pas s'imaginer que c'est le rabbin qui guérit, que c'est le rabbin qui bénit, c'est Dieu qui bénit, c'est lui le porte-parole.
Ils sont justement interdits.
Parle plus fort. C'est vrai, mais enfin, c'est permis de croire à la guérison. C'est un miracle, la guérison. Quand on va demander à un rabbin à faire un miracle, en général, c'est une guérison qu'on lui demande. Si on lui demande un miracle, je sais pas quoi, fait que... J'ai pas l'habitude. Alors le rabbin va vous dire va voir la porte à côté, ça me concerne pas. Je sais pas si je vous ai raconté ça une fois. Les miracles de Lourdes. Vous rappelez de ça? Je n'ai pas parlé. Lourdes. Les miracles de Lourdes. Eh bien, ce sont des miracles de guérison. Un jour, je me trouvais dans une assemblée de prêtres, et puis on me demandait, monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez aux miracles de Lourdes? J'ai répondu oui, j'y crois, à condition que l'Église les ait régularisés. Il y a eu un silence terrible dans la salle, que c'est ce rabbin qui croit au miracle de Lourdes. Et puis, je veux dire, à condition que l'Église ait vraiment... vous savez que chaque fois, il y a un procès fait pour savoir que c'est vraiment une guérison miraculeuse. Okay, sinon, c'est du charlatanisme. Ça veut dire vraiment quelque chose que les médecins, non seulement ne savent pas encore guérir, mais ont suffisamment de connaissances scientifiques pour savoir qu'on ne peut pas guérir ça. Okay. Et alors, je me suis expliqué très facilement en disant, mais écoutez, s'il y a un miracle à Lourdes, ça veut dire que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques, ça veut pas dire que le catholicisme soit vrai. Fallait pas rassurer. C'est de nouveau le principe du monothéisme intégral, c'est clair. Alors, quand il se passe en Inde, n'importe où, un miracle de guérison, c'est un miracle de guérison, comme Arbou, okay. Mais c'est les seuls miracles qu'on demande. Et pas par exemple, non, vraiment ça ne me vient pas à l'esprit, j'ai pas l'habitude de faire des prières comme ça, mais des choses invraisemblables, ton Dieu qui peut tout, tu ne peux pas lui demander ça, il ne s'occupe pas de ça, c'est clair, la guérison lui. Tu as une prière à faire, toi?
Non, comme on a ce problème l'année suivante, j'aimerais bien que vous parliez de Babassaï, parce qu'on va peut-être nous raconter des choses.
Écoutez, je vais vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais l'habitude d'ailleurs d'aller le voir une fois par an pour lui demander sa bracha, et je le connais personnellement, le grand-père. Hein, et c'était vraiment un saint homme. Et vraiment.
Hein,
le père, oui. Le père. D'ailleurs, son grand frère, qui s'appelait Baba Dou, son frère aîné, pas de la même mère d'ailleurs, était l'ami intime de mon père. Je vais vous raconter son histoire à Baba Dou. Il était très ami du Pacha de Marrakech, le Plaoui. Et il était tellement ami, c'était avant l'arrivée des Français au Maroc, que le Pacha de Marrakech ne pouvait pas se passer de lui et qu'il l'a supplié de se convertir à l'islam. Hein? Et alors le Babadou, enfin le juif, c'est un grand kabbaliste d'ailleurs, lui a demandé 24 heures de réflexion pour pouvoir mettre ses affaires en ordre, parce qu'il savait très bien ce qui allait lui arriver. Et lorsqu'il est revenu lui rendre la main, il lui a dit non, je ne veux pas être musulman, je t'aime beaucoup mais je ne veux pas être musulman. Alors son ami, le Pacha, l'a fait tuer. Et je veux dire comment il l'a fait tuer. Il l'a fait attacher à la bouche d'un canon, il l'a fait tirer le canon. Et pendant ce temps-là, il pleurait en disant « mon ami, qu'est-ce qui t'arrive ?» Vous voyez la scène. À part ça, il avait encore un frère, Baba Salé, qui était Baba Haké, qui était le rabbin de... C'est des diminutifs marocains. Salé, c'est diminutif de Israël, et Haké, c'est diminutif de Yitzhak. Alors lui, était le rabbin de Ramlé, le père du ministre Kikou, etc. Le ministre Abou Hassan, ça me dit quelque chose. Et lui aussi, lui, j'ai étudié avec lui, c'était un très grand maître, et il est mort, donc... Alors, c'est une très grande famille. L'ancêtre était un juif du territoire de Gaza, de Palestine, d'il y a très longtemps, qui est arrivé au Maroc. Et la légende, est-ce que c'est une légende? Je n'ai pas envie de vous raconter des légendes trop, mais enfin, vous en entendrez un petit vôtre. Il dit que lorsque le bateau est arrivé sur la côte du Maroc, il a fait naufrage, et que l'ancêtre, qui s'appelait Rabbi Raphaël, est arrivé sur un tapis sur la plage. Et alors, c'est pour ça qu'on les a appelés les Abou Hassera, ceux qui sont arrivés en tapis. Et il y a énormément d'Arabes du territoire de Gaza qui s'appellent Abou Hassera, et c'est très probablement des Juifs convertis à l'islam à un certain siècle. Bien, alors c'est authentiquement une famille de rabbins miraculeux, c'est évident. J'ai moi-même l'expérience avec le Baba Salé lui-même de guérison miraculeuse, de choses miraculeuses qu'on n'obtient pas autrement que par la prière. Sa prière était efficace. Donc, maintenant, est-ce que ça passe par héritage à son fils? Est-ce que vraiment il a transmis ses pouvoirs à son fils? Est-ce que ça, j'en sais rien. Donc, je ne peux pas vous parler du Baba Salé actuel qui s'appelle Rabbi Baour. Hein, ça, je ne peux pas vous en parler. Tout ce qu'il faut craindre, c'est que ça devienne un culte. De type, je sais pas moi, sorcier, charlatan.
Il l'appelle Shem Tov aussi.
Ah, ça, c'est tout avec quelqu'un d'autre. Rabbi Shem
Tov.
Ah, le Rabbi, c'est tout avec quelqu'un d'autre.
C'est
non, c'est à Bercheva. Le Rabbi Shem Tov. Oui, c'est Bercheva. Non, c'est-à-dire, il a été l'élève de Baba Salé, mais lui est à Bercheva. Un étivote, c'est actuellement. Le kadosh, comme on l'appelle, c'est le fils de Baba Salé qui s'appelle Baour. Non, ça c'est le Rav Ben Tov. Attends, non, je veux dire. Oui, ce que je sais du Rav Ben Tov, c'est que c'est sérieux. Le Rav Ben Tov, c'est sérieux. Je ne vous parle pas du Rav Ben Tov, je vous parle de ce risque de. Exploitation commerciale de la vente de bouteilles d'eau bénie. Et d'autant plus que ça fait des problèmes à la mairie de Netivot parce que l'eau est payée par la mairie et Dieu sait que ça se débite. Bon, alors on va faire la parenthèse. Quelle est l'arrivée? Il est déjà l'heure. Bon, alors écoutez, je vais vous donner deux versets à préparer pour demain et le sujet sera que, après le passage des bénédictions, la bénédiction matérielle d'Ésaü à Jacob. Jacob a refusé cette bénédiction. Alors je pense que je les ai données, je vais les redonner. Alors premièrement, vous verrez dans le chapitre 28, verset 20. Chapitre 28, verset 20. Et ah, je vous les ai donnés alors, oui. Et le chapitre, c'est dans Vaishlach. Nachon, le chapitre 32, verset 5. Verset 6, pardon. Verset 6, et vous verrez avec Rachid. Alors rappelez-moi qu'on commence par ça demain. Alors, attendez, deux minutes. D'abord, je ne vais pas demander comment ça s'est passé hier soir, votre soirée. Ben, ça va. Ça va, c'est bien. Quoi d'autre encore je voulais vous dire? Oui, alors nous avons décidé que la réunion pour nous, c'est mercredi. Ben, Merci. Merci.